9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Vous le savez, tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun. Une heure pour parler d'islam, 9h-10h. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Plusieurs temps dans cette émission.
Je rigolais tout à l'heure, bien sûr. Hein, j'avais aucune pulsion contre Maya, au contraire. Que de la.
Mais on l'avait oublié.
J'apprécie. Non, il faut pas.
Ceci dit, on donne au mot pulsion une connotation qui n'est pas forcément la bonne.
Soit meurtrière.
Voilà, exactement. Bien. En tout cas, Imam Abdelali, dans cette émission, il y a plusieurs temps. Et vous pourrez donc, en fin d'émission, intervenir et poser toutes vos questions à l'imam au 01 53 48 3000. Ouais. Alors, première question. Elle n'est pas de moi, hein, je préviens tout de suite. Je me dédouane.
C'est une question qui fâche.
C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas de moi. Pourquoi certains musulmans, en particulier son élite religieuse et leurs cadres, font constamment référence au passé du Moyen-Âge ?
Oui, en effet, on constate que la plupart des cadres musulmans, des imams, des théologiens, des chercheurs, se font constamment en référence à ce passé lointain. Et font rarement référence et finalement plus on va dans le passé plus on est crédible et plus on va dans le futur, c'est-à-dire vers le présent, plus on se dirige vers le présent et moins on est crédible dans l'esprit des...
Ce qui est paradoxal, c'est pour parler du présent, hein, de ce qui se passe en 2018, d'aller chercher si loin.
Il faut être de plus on est loin et plus on serait soi-disant juste dans nos positions. Eh bien, Dieu a dénoncé cette attitude quand il a parlé aux idolâtres, quand il a parlé des idolâtres. Il a utilisé même leurs propres propos. C'est-à-dire, il a utilisé leurs propos dans la sourate l'ornement, sourate Zukhruf, le verset 43. Dieu dit avec les mots des mouchriquins, des idolâtres, « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » Alors Dieu dit à son prophète, dis-leur. Alors il dit, mais même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres. Donc c'est une manière de dénoncer à travers l'illustration d'un dialogue entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient réformer et contextualiser les besoins de la réalité des Arabes de l'époque. En leur disant, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Ce n'est pas ce que vos ancêtres vous ont apporté dans le passé. Et donc Dieu, à travers cela, il veut dénoncer cet esprit archaïque, arriéré, qui consiste à constamment ne se référer qu'au passé. Et donc, en effet, comment est-ce que des savants qui ont utilisé leurs capacités, leurs outils intellectuels, et dans leurs conditions limitées de l'époque, et à leur contexte historique, peuvent-ils encore influer sur les choix décisifs de notre époque contemporaine? Moi, je me pose la question. Nous vivons une véritable crise d'immobilisme qui consiste à nous attacher à des personnes décédées depuis des siècles et qui décident aujourd'hui à notre place de notre destinée. Des êtres vivants que nous sommes, qui se réfèrent et s'appuient de manière continuelle sur des personnes mortes depuis des siècles. Y a-t-il pas là un paradoxe, Philippe? Tout ce potentiel humain qui se rassure et se repose sur des références parties depuis belle lurette, même, mais qui est incapable de produire et de construire sur ses fondations. Et je vois là une forme de lâcheté, de paresse chez ces gens-là, qui consiste à dire que si on garde et on restaure ce passé-là, ce capital que nous avons acquis dans notre passé, eh bien, cela constituera notre salut et nous pourrons grâce à cela obtenir la satisfaction divine. Être productif, être dans la créativité, être dans l'audace et dans le courage de construire quelque chose sur ces fondations du passé, eh bien, c'est forcément conçu et compris comme étant un égarement. Et une innovation égarante, une bid'a sayyi'a, etc. etc.
Après, il y a tout ce qui est la réforme, les réformateurs.
Ouais, non, moi je pense que il est temps de réformer notre discours religieux. Il s'agit pas de réformer l'islam, on ne va pas changer la religion d'Allah Azza wa Jalla.
En fait, les gens confondent les deux.
Oui, voilà. Mais on parle de réformer le discours religieux et de réformer le comportement des musulmans qui se contentent de se passer et ne construisent rien dessus, comme si qu'ils vivaient dans une ville de l'Antiquité. Ou est-ce que un musée des ancêtres, un musée d'idées, un musée de pensées, un musée dans lequel on aurait simplement des reliques et du passé. Sur ce, c'est sur quoi nous vivons aujourd'hui dans notre communauté, alors qu'aujourd'hui d'autres communautés construisent des gratte-ciel, construisent des construisent bien, d'un point de vue, je parle d'intelligence, pas d'urbanisme, hein, je parle d'intelligence intellectuelle. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran ? Il dit, ils n'obtiendront une partie de son savoir que s'ils le décident. C'est-à-dire, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَشَاءَ. C'est-à-dire qu'on a l'impression de penser que ces gens-là, ça y est, ils n'ont rien laissé aux gens de l'avenir. Ils ont tout géré, ils ont tout réglé, voilà, c'est ficelé, c'est un paquet cadeau qu'on ne peut rien ni ajouter ni diminuer. Si tu fais ça, tu vas au paradis, tu fais pas ça, tu vas en enfer. C'est complètement absurde que de penser de cette manière-là. Moi, je pense qu'au contraire, ce capital que nous a légué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moteur, c'est vrai, c'est un bloc moteur, certes, qui a toutes ces caractéristiques d'un moteur avec ses pièces qu'on ne doit pas tribouiller ou essayer de manipuler. On doit le laisser comme un moteur, c'est-à-dire quelque chose qui doit nous faire avancer, qui doit nous motiver pour aller de l'avant, pas pour nous rester focalisés, le poser sur un socle et le regarder avec admiration seulement. Non, il faut impérativement voir ce passé comme étant quelque chose qui nous permet de construire et non pas d'imiter de manière sclérosée et de ne pas pouvoir avancer et aller de l'avant. Donc il est important, Philippe, que cet héritage du passé soit considéré comme quelque chose d'honorable, certes, que nous devons respecter, mais qui est une fondation sur laquelle nous devons construire et non pas s'arrêter dessus. Voilà, قال الله قال الرسول et puis ça y est, et puis je m'arrête dessus, et ou قال ابن تيمية ou la قال الإمام مالك ou قال الشافعي ou قال أبو حنيفة et puis a dit un tel et puis je m'arrête là, je reste constamment bloqué sur cet état d'esprit. Il faut impérativement aller de l'avant, il faut impérativement que nous ayons ces esprits créatifs qui ont le sens de la réflexion, ce qu'on appelle en arabe l'ijtihad, pour relever le défi de contextualiser notre religion, de l'adapter à la réalité moderne, de l'adapter à ce défi qui est la réalité de la mondialisation, par exemple. Et qui est comment, Philippe, des gens qui ont vécu au 7e siècle auraient-ils la capacité, avec leurs moyens qu'ils avaient à l'époque, de résoudre les problèmes de cette mondialisation qu'on a aujourd'hui, de cette réalité moderne que nous vivons aujourd'hui. Il est donc impératif de se dire que voilà, ces savants ont fait leur travail pour leur époque, à nous de faire le nôtre pour notre époque.
Alors quand vous dites nous, parce que l'ijtihad, tout le monde ne peut pas le pratiquer.
Ce sont ces experts, chacun dans son domaine.
Vous êtes en train de parler des experts dans leur domaine.
C'est-à-dire qu'ils connaissent bien les fondations. C'est ça, parce qu'on ne peut pas construire sans fondation.
Si tout le monde se met à pratiquer ça.
C'est parce qu'ils n'ont pas de fondation. Donc construire une bâtisse sur quelque chose qui n'a pas de fondation, on est bien d'accord qu'elle va s'effondrer, cette fondation. Donc il faut d'abord acquérir la fondation, acquérir les connaissances nécessaires qui vont nous permettre de construire sur ces fondations. Donc moi j'invite les musulmans parce que c'est trop facile. Moi j'ai rien étudié, je fais rien, aucun travail de recherche sur ce qui a été dit par les savants en amont, sous prétexte que je vais travailler en aval ou je travaille pour la créativité. Pour pouvoir être créatif, il faut d'abord avoir des prérequis, des acquis nécessaires, qu'on appelle les fondations, qui nous permettent de construire quelque chose de solide et de fiable dans notre avenir collectif. Moi, je parle d'abord de la composante musulmane en particulier, qui se trouve aujourd'hui au milieu d'une communauté internationale qui représente un petit village avec aujourd'hui les moyens technologiques qui nous rapprochent tous, les médias, l'internet, etc. Aujourd'hui, le monde est un petit village. On ne peut plus parler des gens de Tokyo comme étant des gens qui vivent sur une autre planète. Ils vivent sur la même planète que nous, ils entendent le même discours que nous, ils sont exactement à la page de notre réalité et de nos informations. Donc, voilà, aujourd'hui, ce monde s'est rétréci grâce aux médias, on ne peut pas dire à cause, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose, et donc c'est une opportunité pour nous musulmans d'être fiers de notre héritage, mais pour être fiers, il faut pouvoir ne pas avoir de complexe, de pouvoir construire sur cet héritage et apporter notre pierre à l'édifice et montrer la beauté de notre religion. Voilà ce que je dis, donc travaillons, soyons des gens productifs et n'ayons pas peur d'innover. Il ne s'agit pas d'innover des pratiques religieuses. Il s'agit d'être créatif et avoir le sens de la créativité intellectuelle. hein, pour pouvoir répondre aux réalités contemporaines et aux nawazil, aux événements dans lesquels nos prédécesseurs n'ont pas eu l'opportunité, parce qu'ils ne l'ont pas vécu, de vivre. Et voilà, donc c'est essentiel, parce que voilà, c'est en gros ce que je voulais soulever comme question qui fâche. C'est vrai que c'est une question un peu technique, mais je voudrais un petit peu réveiller les consciences et d'arrêter de dire allô l'imam, j'ai une question, je vais répondre aveugle, je vais appliquer aveuglément ce que tu vas me dire. Ta réponse sera celle que non, il faut impérativement que nos mentalités changent et que nous gardions l'esprit critique. Parce qu'aujourd'hui, tout part en vrille, Philippe. Aujourd'hui, on a une communauté qui part en vrille entre un extrémisme soufi, un extrémisme salafi, un extrémisme frériste, un extrémisme tabliriste, un extrême. On a une multitude de religions musulmanes au pluriel, et c'est malheureux que de constater cela. Il y a autant de mosquées que de religions musulmanes en France. C'est incroyable. Et c'est malheureux de voir dans chaque mosquée un imam tenir un discours totalement. Je crois qu'il y a une ligne éditoriale qui doit être élaborée, qui doit être salvatrice, qui doit nous permettre d'avancer et de progresser en avant et de ne pas nous rester sclérosés quant à la vénération de tel saint ou de tel maître spirituel ou de tel savant juriste, qu'il soit ancien ou contemporain. Gardons toujours cet esprit critique, mais avec l'humilité de respecter ces savants qui ont travaillé et qui ont accumulé des connaissances, et que grâce à ce capital qu'ils ont, nous pouvons construire par-dessus et non pas contre eux, mais avec eux et sur ce travail qu'ils ont fait, eh bien construire notre avenir. Voilà, en gros.
Bien. Alors, mais à quoi ça sert d'appeler les imams si vous donnez pas la réponse, Imam Abdelali?
Bah, aujourd'hui, le rôle de l'imam est un petit peu un rôle palliatif. Il n'est pas un rôle qui, c'est pas curatif.
Bon, il n'est pas curatif. Mais aujourd'hui, tous les imams, ils donnent leur numéro de téléphone pour que les gens les appellent.
Bah, moi, bon, je le donne.
Oui, mais avant, moi, je faisais des émissions avec des imams.
Mais je te rassure, Philippe, ça ne me rapporte rien.
Non, ça ne me rapporte rien du tout.
Et je réponds toute la journée aux appels.
Vous répondez toute la journée aux appels parce que vous les suscitez. Moi, j'ai fait des émissions avec des imams qui donnaient pas leur numéro de téléphone. Donc, aujourd'hui, les imams disent oui, mais on nous demande notre avis pour tout et n'importe quoi. Bah oui. Mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu joignable. Et ça, c'est valable pour tous les imams aujourd'hui.
C'est pas la question qu'on soit joignable ou pas. Les gens vous
posent des questions parce que vous êtes devenu aussi. Si vous aviez une permanence une fois par semaine, vous verriez les gens qu'une fois par semaine.
Non, mais le besoin est beaucoup plus important que de se limiter qu'à une permanence, Philippe. Le souci aussi, c'est que les gens, c'est à l'imam d'être responsable, de ne pas profiter de la situation pour et de la crédulité de ces gens, de tous ces musulmans qui sont une amana, un dépôt qu'il peut, s'il le veut, utiliser à son escient, à ses propres intérêts, manipuler pour devenir leur gourou et pouvoir de ce fait les orienter à sa guise pour alors que moi, mon travail, par exemple, Philippe, c'est souvent d'évoquer les différents avis, les différentes positions, et de contextualiser ces avis-là et d'illuminer, d'éclairer mes interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui m'appellent au téléphone, pour leur dire voilà, certes, il y a tel savant qui a dit ça, voilà la réalité dans laquelle on vit. Voilà la complexité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, entre une réalité qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit par ces savants-là, et voilà comment des savants aujourd'hui ont travaillé, ont réfléchi pour pouvoir adapter ces textes à ce nouveau contexte dans lequel nous vivons. Et après, les gens, avec leur esprit critique, de dire oui ou non, j'accepte, je suis convaincu de ce que m'a dit l'imam, ou non, mais c'est à leur... Il faut pas oublier un verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jalla rappelle que ceux qui ont été égarés par des savants ne pourront pas évoquer cette excuse. Hein, Dieu dans le Coran, il dit « Inna wajadna kubara ana fa'adalluna sabil ». Nous avons trouvé nos grands, c'est-à-dire nos maîtres, nos référents, sur ce chemin-là, et c'est eux qui nous ont égarés. Dieu dit dans le Coran. Eh bien, Dieu dans le Coran, il dira quoi? Eh bien, il dit « Rentrez-vous et vos grands et vos kubara'akum nara jahannam, entrez-vous et vos grands dans l'enfer ». Il dira pas « Non, c'est les grands qui iront en enfer, et vous, puisque vous n'avez été que victime de ces gens-là, vous n'irez pas en enfer ». Non. Donc, sachez que chacun est responsable. « Wala taziru waziratun wizra ukhra ». Personne n'assumera les péchés et les fautes des autres. وان ليس للانسان انسان الا ما سعى, mais Dieu ne responsabilisera chacun d'entre nous que sur ce quoi il a commis ou accompli.
Dans un instant, vous évoquerez une nouvelle profession, Imam Abdelali, celle de journaliste et l'éthique à développer. Et vous pourrez poser bien sûr vos questions tout à l'heure à l'imam. Je vous rappelle le numéro du standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
En direct, hein, l'imam Abdelali Mamoun répondra à toutes vos questions tout à l'heure au 01 53 48 3000. On va évoquer dans un instant, vous savez, chaque semaine, hein, l'imam vous propose d'évoquer une profession. D'ailleurs, si vous voulez que votre profession soit évoquée un jour, vous pouvez envoyer un SMS à l'imam, par exemple, ou le dire à l'antenne. Hein. Rappelez votre numéro de téléphone.
Alors, mon numéro pour poser des questions, c'est le 06 29 25 35 00. Je répète, le 06 29 25 35 00. Alors, j'aimerais faire un petit rappel sur le rôle de ce standard. Il s'agit simplement d'être là pour répondre à des questions qui relèvent de la religion et de votre pratique, de l'adapter aux réalités contemporaines, dans laquelle du quotidien. Et non pas d'appeler un imam pour chercher un psychologue. Je ne suis pas psychologue. Ou un éducateur spécialisé. Je ne suis pas éducateur. Les gens m'appellent, voilà, mon fils, il est rebelle. Pourquoi je ne suis pas la personne qui sait tout? Pourquoi vous pouvez penser qu'un imam, c'est un ce qu'on appelle un omniscient? العالم علم بكل شيء نو يا اخواني الله يجازيكم بخير انا بنادم je suis un être humain comme vous j'ai mes limites en connaissance et pour chaque connaissance il y a des spécialistes donc vous avez des problèmes conjugaux الله يجازيكم بخير consultez un conseiller conjugal des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là chez vos enfants vous avez des problèmes il y a des éducateurs spécialisés qui sont spécialisés mais pour ce qui relève de la religion et de la pratique de la religion au quotidien, eh bien là, effectivement, je peux jouer mon rôle. Mais aujourd'hui, tout le monde m'appelle pour tout et n'importe quoi. Je joue même, Philippe, le rôle du 118-218, où est-ce que on me pose des questions, où est-ce que je peux trouver une boucherie, où est-ce que je peux trouver un calendrier,
ah ben, ça
c'est à quelle heure ça
non,
va être
moi, je vous ai demandé ce matin, j'ai dit, où est-ce qu'on peut trouver un bon chausson aux pommes? Et très gentiment, vous m'avez dit, donc vous avez réponse à tout. Voilà.
Bon,
alors, pour la boucherie, vous connaissez également des très bonnes pizzerias.
Même pas.
Si.
J'en connais pas. Des bonnes pizzerias. Une pizzeria, oui, mais une bonne, je sais
tiens,
pas.
Tiens, il y a Richard. J'espère qu'il n'a pas une question sur un numéro téléphonique à poser à l'imam. Mais en tout cas, Richard attend. Richard, bonjour et bienvenue.
Bonjour, messieurs. Déjà, je suis assez ravi de voir d'entendre vos émissions qui méritent effectivement d'être plus largement connues. Moi-même, je suis un patchwork entre les uns et les sarrasins, puisque j'ai été élevé dans la religion catholique, donc polonais-allemand, par ma mère.
Ah oui.
Et j'étais effectivement, donc j'ai 72 ans, et j'étais très en colère. Enfin, je fuyais la religion catholique quand j'étais jeune de par, comment pourrais-je dire, sa rudesse. Je n'ai repris conscience des choses qu'avec les deux, trois derniers papes. Et j'estime ce que votre l'imam en question, excusez-moi si j'ai pas bien retenu le nom,
Monsieur Lamoun,
dit, est excellent. Et effectivement, l'islam, malheureusement, nous a tout de même permis de sortir de notre ténombre avec la Renaissance et de créer le monde dans lequel l'Occident vit. Et donc, de la même façon, le catholicisme a fait une contre-réforme. Et c'est ce qu'il faut à l'islam, et ce que vous prenez, et je suis à 100% d'accord, et je le soutiendrai, et je vais terminer par là, c'est une des raisons pour lesquelles je disais depuis les années 90 qu'il fallait garder et rattacher la Turquie à l'Europe, et pas l'exclure, là je parle politique, il fallait pas l'exclure parce que 120 millions d'individus peuvent faire bouger les lignes. Quelqu'un qui prêche seul dans le désert, il y en a pour des siècles. Voilà ce que j'avais à dire.
Ben moi, j'ai même osé, dans mon ouvrage que j'ai écrit, qui s'appelle « L'islam contre le radicalisme », j'en profite pour faire la promotion, qui est un livre que j'ai écrit aux éditions Le Cerf, et qui est donc disponible dans toutes les FNAC et autres points de distribution, dans lequel j'évoque un grand concile islamique. Je parle d'un grand concile, à l'instar du concile Vatican, ou concile, des conciles qui ont traversé Latran, etc. Et, les chrétiens ont su, à travers l'histoire, s'adapter et concilier leur religion avec les réalités et le contexte dans lequel ils vivent. Nous refusons, au nom de cette peur, de cette crainte, d'égarement, de déviance,
d'isolement. Excusez-moi de vous interrompre, c'est l'ignorance et c'est là-dessus qu'on profite. Mais je vous interromps juste pour deux réponses et après je me tairai. Vous me parlez d'un bouquin, je viens d'en trouver un au Salon du Livre à Toulon, que je recommande. Bon, c'est pas du prosélytisme,
il s'agit pas de
convertir les musulmans en catholiques. Chacun a sa confession et ses croyances. Mais La malédiction des chrétiens d'Orient. Il est magnifique, ce bouquin, parce qu'il retrace ce que j'ai fait dans mes troisième cycles à l'ONU ou autre. Il retrace le départage et de la façon dont les puissances, et je dirais la puissance occidentale, notamment américaine, joue avec cette ignorance sur les masses. Et le repartage, donc, depuis la chute de l'Empire russe, comment on a créé, parce que peut-être je me trompe, mais on a créé l'islamisme, le terrorisme, on l'a créé, nous, à partir de l'Occident. Et ça, je pense qu'il n'y a que les musulmans et les musulmans qui ont une connaissance comme vous, moi je ne parle pas arabe, je ne sais pas lire l'arabe, ni l'hébreu, ni quoi que ce soit, peuvent faire bouger les lignes par une contre-réforme, mais aujourd'hui, je suis un peu, comment pourrais-je dire, déçu et anxieux dans la mesure où quel est le vecteur qui peut être porteur. Il faut une masse. Or, cette masse, on l'avait à travers la Turquie, elle n'y est plus. Bon, maintenant, faut-il s'interroger. Est-ce que, effectivement, et là je reviens sur une idée de Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou non, ne sera pas. Est-ce que il n'y a pas sous-jacent un intérêt pour qu'on ne puisse pas faire évoluer la ligne, parce que vu malheureusement le taux de fécondation des femmes musulmanes étant supérieur, que l'islam renouvelé, adapté à nos circonstances, à nos conditions, ne va pas submerger le catholicisme. C'est la question que je me pose.
Bon, il y a quand même beaucoup de questions dans votre intervention, Richard, qui demanderait plusieurs émissions.
Ouais, pourquoi pas l'inviter à l'antenne un jour pour parler ça, justement, pourquoi pas, dans le dialogue interreligieux.
C'est vrai.
On a une émission tous les samedis de dialogue interreligieux de 10h à 11h.
Je l'écoute quand j'ai pas mes petits-enfants amenés au parc. Ceci étant donné, je vous félicite de votre courage. Et en règle générale, l'émission que j'ai goût de mettre l'avocat en question qui me plaît énormément, moi-même...
Maître Serran.
Maître Serran, moi-même, donc, étant d'une formation d'ingénieur au départ et de grande école, puis terminé par un doctorat en droit...
Ah bah écoutez, quoi, vous voyez, toujours actif. Bon, Richard, au plaisir, en tout cas, parce qu'on avance, c'est un plaisir de parler avec vous.
Continuez votre travail, c'est la seule chose, et que les musulmans vous écoutent et fassent évoluer si on ne veut pas rentrer dans une catastrophe, parce que les jeunes qui sont nés ici, d'origine nord-africaine, etc., il leur faut un repère. Il leur faut des fondations, des bases.
Bon, Richard, on est là pour donner leur base. Je crois que là, vous êtes là jusqu'à midi. C'est bien aussi.
En tout cas, c'est passionnant ce que dit Richard. J'ai l'impression d'une réincarnation d'un certain Richard Cœur de Lion.
C'est que merci de votre appel, Richard. Vous savez qu'on a une deuxième partie dans cette émission qui concerne l'emploi et l'islam. On va parler d'un métier, le métier de journaliste aujourd'hui. Alors déjà, quelles sont les questions qui se pose d'un point de vue éthique autour de ce métier de journaliste, Imam Abdelali?
Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que le journalisme? Le journalisme, c'est d'abord transmettre, et d'une certaine manière colporter, c'est-à-dire transporter une information et la répandre dans le milieu public, c'est-à-dire à des gens qu'on ne connaît pas. Et, alors, déjà la question, est-ce qu'il est autorisé en islam de transférer des informations sur des personnes sans leur accord et sans que ceux-ci n'aient donné leur approbation. Ben, la réponse est non. Hein, on appelle ça tout simplement de la médisance. Parce que beaucoup de gens pensent que la médisance, c'est dire du mal des gens, alors que c'est faux. Quand on a interrogé le prophète, qu'est-ce que c'est qu'al-riba, qui est la médisance, il a dit, al-ribatu dhikruka akhaka laysa bima yukrah, et non pas de ce que il est détesté, mais ce que lui ne veut pas que l'on dise sur lui. C'est-à-dire même y compris sur ce quelque chose qui serait honorable, qui pourrait l'éloger ou le flatter, eh bien il est interdit de le colporter, de le transmettre à une autre personne sans qu'on ait l'accord de la personne concernée. C'est-à-dire, si même je dis je dis à quelqu'un sur Philippe que Philippe c'est un gars bien, j'ai pas le droit de le faire que seulement
c'est de
si
la médisance.
Si je sais que Philippe n'est pas d'accord que je dis ça sur lui, je n'ai pas le droit de le dire. Donc c'est très grave. En islam, on a une rectitude, une liberté d'expression en ce qui concerne les autres et l'honneur et la dignité des autres qui est extrêmement étroite. Puisque même dire du bien, c'est pas autorisé si on n'a pas l'autorisation de le faire. Donc le journalisme, c'est parler des gens. Diffuser une information, c'est plus que simplement de faire de la médisance, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire à une tierce personne que l'on connaît concernant une personne quelconque, mais c'est de dire à des milliers, voire même des millions de gens, aujourd'hui avec les médias qu'on a aujourd'hui, eh bien ce sont non pas des milliers, des centaines de milliers, mais des millions de gens qui sont informés sur le comportement, sur ce qu'a fait une telle ou telle personne, alors que nous n'avons pas son accord pour le faire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si quelqu'un fait du mal, il faut quand même mettre en garde les gens. Eh bien oui, là effectivement, c'est l'exception à la règle. Quand il y a une menace, quand une personne constitue une menace, un danger dans la société, il faut pouvoir répandre l'information aux gens pour mettre en garde. Donc il faut que le journalisme soit utile et soit au service de la société et non pas simplement au service de l'audimat, au service de la presse. Quand je dis presse, c'est-à-dire des moyens pour imprimer ces journaux et de sa société qui est derrière de faire des coups d'éclat et du spectaculaire, comme on pourrait dire, tout simplement pour vendre encore plus de journaux et pour avoir encore plus d'audimat. C'est bien sûr, cela est particulièrement détestable. Dieu, dans la sourate La Lumière, dit dans le verset 15, quand vous colportez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. C'est vrai, aujourd'hui dans le journalisme, parler sur les gens, dire ça nous semble normal, on a normalisé, c'est même rentré dans la norme que de dire, de colporter des informations, alors qu'on parfois on n'est même pas sûr, et même si on est sûr, est-ce qu'on a sa permission pour le faire? Bien sûr, là je dis bien, dans le cadre où cela ne constitue pas une nécessité pour ces gens-là. Donc faisons attention. Alors, attends, à la fois à la riba, mais aussi au bouhtan.
Parce qu'il y a une règle de base dans le journalisme, c'est ce qu'on appelle le factuel. Donc en fait, vous rapportez des choses qui se sont passées.
Oui.
Donc on va dire, il est venu travailler ce matin, il s'est rendu ensuite à son bureau de l'Élysée et a rencontré le Premier ministre. On prend cette base. Est-ce que ça, finalement, c'est colporté?
Je ne pense pas que le président de la République est contre que l'on dise ça de lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que l'information ne constitue pas...
Ça, c'est du factuel. C'est...
Oui, voilà, c'est du factuel. Mais en même temps...
Notre métier, c'est du factuel.
Mais en même temps, est-ce que si moi je colporte que monsieur Emmanuel Macron dans sa vie privée, organisé tel voyage avec sa famille, et dans son intimité, dans le moment où il est dans l'intimité avec sa famille, ou qu'à la maison, il a eu tel rapport avec sa femme, intime par exemple, ou moi je vais, comme paparazzi, photographier des scènes totalement déplacées de sa vie privée, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Là, on parle de sa vie publique, ou est-ce qu'il y a un consensus de la part des gens dans la société que de colporter ou de répandre une information publique que lui sait que quand il va le faire dans un lieu public, il est même habillé pour cela. Il met son costard cravate parce qu'il sait qu'à ce moment-là, ces journalistes vont être là pour répandre cette information-là dans lequel tu as dit il s'est déplacé de tel endroit, il a été rencontré son ministre. C'est normal.
Même si on ne lui a pas demandé son avis, on rapporte quelque chose de factuel, donc là...
Oui, mais parce que cela peut avoir un impact dans toute la société. Aller rencontrer tel parti, ou aller rencontrer tel syndicat, ou aller rencontrer tel je sais pas moi, responsable du patronat ou autre, ou dans lequel il va y avoir des discussions, des négociations qui concernent l'avenir des salariés, eh bien effectivement, c'est normal que les gens soient au courant, parce qu'il s'agit là de quelque chose qui les concerne directement. Donc, et il est normal que quand on élu un président de la République et son ministère que lui a choisi, il est normal qu'il y ait une partie que l'on considère comme étant une partie publique dont on a le droit de répandre les informations, mais il y a une partie qui est privée, dont là, effectivement, il est strictement interdit, et que ça soit religieusement parlant, mais même dans la loi, on n'a pas le droit de diffuser des informations privées qui concernent et qui n'ont aucune conséquence dans l'avenir collectif de la société.
Ce qui veut dire que journaliste au journal Voici, par exemple, c'est pas compatible avec le fait d'être musulman.
Alors, comme je lis pas Voici, c'est toi qui vas me dire qu'effectivement dedans il y a des...
J'ai vu Voici tout à l'heure dans votre voiture.
Voici.
Il y avait toute la collection des Voici.
Bah alors là, je pense que là tu fais de la pure calomnie.
Ah, j'ai
c'est de la calomnie par excellence. Alors que je viens de condamner la calomnie physique. Ah, tiens, je voudrais rappeler un hadith du prophète. Qu'un jour, un homme a dit au prophète, alors qu'il venait de condamner la médisance, il a dit, Ya Rasulallah, et si ce que je dis sur lui est vrai, qu'en est-il? Je vois pas il est où le mal si c'est de colporter une information qui est vraie. Le prophète a dit, si ce que tu dis est vrai, ça s'appelle de la médisance. Mais si cela n'est pas vrai, ça devient l'un des sept péchés capitaux qu'on appelle la calomnie. Et là, la calomnie, c'est un des sept péchés capitaux, surtout quand il s'agit d'entacher ou de souiller la dignité et l'honneur d'une personne. Bon là,
donc,
je te pardonne.
Ce qui veut dire, tu fais rester avec Dieu. Ce qui veut dire ça. Que finalement, la question, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. La question, c'est de savoir si la personne souhaite qu'on en parle ou pas.
Voilà, c'est effectivement, c'est tout ça. Donc le journalisme.
Même si c'est vrai et que la personne ne veut pas qu'on en parle, on n'a pas le droit de le.
Je dis bien à condition que cela relève de quelque chose qui n'est pas en rapport avec la société. D'informer les gens sur le comportement de tel ou tel ministre. Par exemple, quand on a, par exemple, l'autre, la ministre qui avait des comptes à l'étranger là. Et c'est sûr qu'il voulait pas que l'on diffuse ça. Cahuzac, hein, par exemple. Cahuzac qui était à la recherche à l'époque. On parlait des comptes. Comment ils appellent ça? Hein?
Offshore.
Où est-ce que l'on était? Où est-ce que la finance était pour traquer
c'est Kim qui souffle parce qu'il a des comptes en Algérie offshore.
Voilà, c'est ça. Non, c'est sûr. Ouais. Je suis sûr qu'il en aura pas qu'elle a de pognon.
Offshore.
C'est de la calomnie, ça, il a dit.
Ou de la jalousie.
Non, mais revenons à Cahuzac. Par exemple, le cas de Cahuzac. Cahuzac, lui, était celui qui était le moraliste et qui, à l'Assemblée nationale, disait que voilà, il fallait traquer les comptes offshore, etc. Alors que lui-même en avait un. C'est effectivement tout à fait apprécié que les journalistes ont fait leur investigation pour prouver qu'effectivement, il avait été à côté de son idéal, de sa morale, et qu'il fallait dénoncer ce genre d'individu, parce qu'il n'était pas normal que ces personnes-là n'appliquent pas ce pourquoi ils imposaient aux autres ce qu'ils ne voulaient pas pour eux-mêmes. Donc effectivement, là, on a le droit de le faire. Ce travail de journaliste est tout à fait apprécié.
Alors, on parlait de calomnie. Vous nous raconterez l'histoire d'un verset, justement, qui a trait à la calomnie dans un instant. Et vous pourrez, bien sûr, poser vos questions à l'imam Abdelali au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
9h-10h. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Histoire d'un verset, imam Abdelali, on parlait de calomnie tout à l'heure, et c'est un verset qui a justement un rapport à la calomnie.
Alors effectivement, nous gardons cette sourate devant nos yeux, notamment le verset 11, où Dieu dans le Coran dit en arabe
« Inna alladhina ja'u bil ifki usmatum minkum la tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum » لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
Voilà, verset 11, donc sourate An-Nur. En français, ça donne « Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux, ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. » Donc là, on parle d'une histoire qui relève de l'année 4 de l'Hégire. Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète, a fait l'objet d'une calomnie d'adultère, d'avoir commis l'adultère avec un homme qui s'appelle Safwan ibn Mu'attil. Alors, pourquoi cet homme et comment ça s'est passé? Eh bien, un jour, le prophète, alors qu'il revenait d'une bataille qui s'appelle la bataille de Bani Mustaliq, la bataille d'une expédition dans laquelle il a réussi à même à convertir, puisqu'il s'est marié avec la fille du... La fille de l'émir de cette tribu, et par ce mariage, toute la tribu s'est convertie à l'islam. En l'occurrence, il s'agit de notre mère, la mère des croyants, Jouairiya bint al-Harith. Donc, sur le trajet du retour, le prophète constate que deux compagnons se chamaillent et raniment l'esprit tribaliste. Communautariste ou bien je dirais même on va dire nationaliste entre Médinois et Mécois. Ouais, moi nous on est Mécois, on est les meilleurs, ouais vous les... Et il y a une zizanie qui se déclenche entre des compagnons qui vont même jusqu'à arriver aux mains. Et le prophète, pour éviter justement et pour apaiser cette dissension, eh bien il va demander aux compagnons d'accélérer le pas et il va limiter le temps de pause. Il ne va pas leur laisser le temps de ranimer tout ça sur le trajet. Et il va leur demander constamment, dès qu'ils se sont relevés, ben il va lever le camp à chaque fois, puisque c'est tous les jours, hein, c'est un trajet qui est souvent très long, qui prend parfois plusieurs journées, où il faut camper sur le chemin. Et bien dès qu'il lève le camp, il décide de marcher à pas forcé, à pas rapide, et cela provoque des retardataires. Et l'une d'entre elles qui a fait l'objet d'un retard, c'est justement Aïcha radiallahu anha, qui était partie faire ses besoins et au retour a trouvé que les compagnons et son mari, déjà le prophète, avaient décampé, c'est-à-dire étaient partis et avaient quitté l'endroit où ce qu'ils se trouvaient. Et le prophète avait prévu de laisser toujours quelqu'un derrière pour s'assurer que si on avait oublié quelque chose ou quelqu'un, eh bien qu'il puisse être là pour le ramener, pour faire lui permettre de rejoindre
la voiture balai.
L'expédition. Voilà. La voiture balai, si tu veux. Il s'appelle Safwan ibn Mu'attil. Et donc lui constate que Aïcha a été laissée, on l'a oubliée. Pourquoi? Parce qu'elle était très légère et que son chameau sur lequel elle était, eh ben quand il se déplaçait, on ne savait pas si Aïcha était dessus ou non parce qu'elle ne pesait pas lourd, donc on ne ressentait pas sa présence ou son absence. Et donc malheureusement son chameau est parti sans elle, puisque c'était une forte petite cabane que l'on posait sur le chameau où on ne savait pas si elle était dedans ou pas. Donc Safwan récupère Aïcha sur son chameau et la ramène bien sûr rejoindre le camp. Sauf que des hypocrites qui étaient présents, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, en profitent pour accuser Aïcha. Mais ces deux-là là qui viennent en retard, où est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Ils étaient derrière. Ah ouais, t'as vu, Aïcha elle est restée avec Safwan. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et au fur et à mesure, des compagnons, même innocents, avec un cœur pur, ont colporté cette information. Et on fait croire aux gens que Aïcha effectivement avait été infidèle avec son mari et avait commis l'adultère. Donc c'est quelque chose de très grave. On a porté atteinte à la dignité de cette grande femme qui était Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et donc Allah Azza wa Jal, après un moment donné, après un certain nombre de jours, et ça a duré plusieurs dizaines de jours, a innocenté Aïcha. Pourquoi? Pour d'abord la tester, pour l'éprouver, pour la mettre en difficulté, pour affermir son cœur, pour la faire élever dans sa spiritualité. Parce qu'effectivement l'élévation ne peut se faire que dans l'adversité. On ne peut pas prétendre à une élévation spirituelle sans qu'il y ait des contraintes et des difficultés. Donc finalement, l'issue de cette histoire, c'est qu'elle est innocentée par Allah Azza wa Jal, et c'est ce verset-là qui va innocenter Oumouna Aïcha, et le prophète va interpeller tous ceux qui étaient à l'origine de cette rumeur, de ce colportage d'informations erronées qui n'avaient pas été vérifiées, pour leur faire subir la sanction de colportage, de calomnie, d'avoir répandu une information qui était fausse, eh bien, ils ont subi le châtiment de 80 coups de fouet. Tout simplement parce que ils avaient simplement colporté. Ils disent, ouais, un tel m'a dit que, donc voilà, je te dis, simplement, il a été joué le maillon d'une chaîne de rapporteurs, de ces informations qui étaient fausses, à l'égard de Oumouna Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal a dénoncé, et il rappelle à ses croyants, notamment dans le dernier verset, le verset 19. Pas le dernier verset de la sourate, mais c'est le dernier verset qui parle de cet événement. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici, ici-bas, comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Voilà en gros ce que Allah Azza wa Jal a dénoncé à travers cette histoire de la calomnie de Oumouna Aïcha radiallahu ta'ala anha, et dont lequel nous devons prendre exemple.
Alors, Nadia nous attend au standard. Merci de votre patience, Nadia, au 01 53 48 3000.
Voilà. Non, on...
Nadia nous attend au standard. Alors, Nadia, voilà. Bon. Oui, Nadia.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Marhaba,
Nourti. Pour faire la prière, il faut faire l'iqama absolument, et c'est obligatoire l'iqama ou pas?
Non, la iqama est une recommandation forte pour les prières obligatoires. Que pour les prières obligatoires. Par contre, quand il y a une prière surérogatoire, il est carrément interdit de faire la iqama puisqu'il s'agit d'une innovation. Aucun des compagnons, et lui-même le prophète, n'a prononcer la iqama quand il s'agissait d'une prière qui n'était pas obligatoire. Sunan ou nawafil, salawat nafila, la toujadu fiha iqama. Il n'y a pas de iqama pour les prières surérogatoires. Seul pour les prières obligatoires, ouais, il y a une iqama. Même salat al-Eid, par exemple, qui n'est pas une prière obligatoire, mais il n'y a pas de iqama. Hein, il y a simplement le muadhin qui dit as-salatu jami'a qumu ila salatikum yarhamkum Allah, mais il ne dit pas la fameuse formule de iqama Allahu akbar Allahu akbar shallallahu la ilaha illallah ila akhirih. Donc voilà, pour répondre à votre question, ma sœur.
Parce que moi je faisais ma prière sans iqama, la prière obligatoire.
Non, il faut faire la iqama.
Comment je me corrige?
Non, vous corrigez rien, votre prière est valable. Mais dorénavant, il faudra la faire.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Merci Nadia. On va à Rouen et c'est Abdel qui est avec nous au 01 53 48 3000. Abdel, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour l'imam. Bonjour à toute l'équipe de Tour FM. J'aimerais poser une question à l'imam. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet des ulamas, des scientifiques de l'islam. Il faudrait dédouaner de leur guidance. Philippe, il a pointé du doigt qu'en fait... souvent on est obligé de se référer à eux, mais je pense que par rapport au hadith, est-ce que ça implique que éventuellement les scientifiques seraient les personnes qui ont ramené les hadiths en même temps? Donc est-ce que c'est par rapport au hadith aussi qu'il faudra faire attention à ça ou pas?
Alors, j'ai pas bien compris ta question, Akhil Karim. Donc, par rapport au hadith, je comprends pas à la fin. J'ai compris au début, mais après, j'ai pas compris à la fin.
D'accord. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est si on doit être responsable de nos actes devant Allah, je voulais savoir si, par rapport au hadith, si on est guidé par des scientifiques aussi. Je voulais savoir si on était
responsable devant Dieu par rapport au fait d'avoir suivi ces savants-là. Eh bien, nous avons effectivement une part de responsabilité parce que c'est justement ça ce qu'en quoi je mets en garde notre communauté, c'est que à force de vouloir s'en remettre aux autres, on pense qu'on est exempté de toute responsabilité devant Dieu.
Ça,
alors que dans le Coran, il est clair qu'il dira que il mettra en enfer ces grands-là qui vous ont égarés, mais vous-même qui avait été égaré par ces grands-là. Donc, inna wajadna kubara'ana fa adalluna as-sabil, dit Dieu dans le Coran. Eh bien, il dit, utkhulu antum wa kubara'akum. Entrez-vous et vos grands et vos référents et vos savants en enfer. Donc, il ne dit pas que non, c'est eux qui iront et nous on n'est pas responsables devant Dieu. On a un devoir de recherche et de vérifier nos sources.
Excusez-moi, l'imam, c'est quelle sourate où se trouve ce...
Je vais te dire ça. Je te le dis dans quelques instants.
D'accord.
Parce qu'elle est sortie. Elle est sortie automatiquement. C'est pour ça.
Voilà. C'était spontané. Voilà,
Mashallah. Ce que je voulais dire, c'est effectivement. Donc, si on a notre part de responsabilité, on doit se référer à une source protégée qui est le Coran en premier lieu. Quoi, en fait, c'est ce que je comprends.
Bien entendu. Alors, je te reprends le verset du Coran où Dieu a dit وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Voilà, c'est le verset 67 et 68 de la sourate Al-Ahzab. Voilà, où Dieu dit dans le Coran. In waqalu rabbana, ô mon Dieu, nous avons obéi nos maîtres, sadatana wa kubara'ana, nos grands, fa adalluna as-sabil, ils nous ont égaré le chemin.
Bon, alors Abdel, c'est dommage, vous arrivez un peu tard, mais l'émission
Voilà, malheureusement.
Et trop courte. Imam Abdelali, rappelez votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent partir à la Omra avec vous pendant les vacances de février.
06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Laissez-moi un message pour ceux qui n'arrivent pas à me joindre.
Voilà. N'hésitez pas, je vous rappellerai. C'est pas le 118 218, donc ne demandez pas des numéros de téléphone
ou, pour une
ou des adresses de boucherie à l'imam. On l'a bien compris aujourd'hui.
Merci, Philippe.
C'est clair, hein, Imam Abdelali.
Je t'adore, je te kiffe.
On est d'accord.
Bon. Et puis aussi Kim, hein, pas oublier sur le chemin. Il est là aussi après.
À jeudi.